RMC Grand Plateau, Christophe Cessieux.
Salut à tous. Remco réalisera-t-il le double doublé dimanche prochain à Zurich lors de l'épreuve en ligne des championnats du monde? Après avoir régné sur les anneaux olympiques le mois dernier, le prodige belge a montré qu'il tenait toujours la grande forme ce dimanche, en témoigne son nouveau triomphe lors du chrono des championnats du monde. Oui, mais en fin de semaine, il aura face à lui une sacrée concurrence emmenée par un garçon nommé Tadej Pogacar qui a 26 ans et après avoir presque tout gagné cette année a décidé, bah oui, qu'il était temps de goûter à l'arc-en-ciel, le plus beau maillot de la planète cyclisme que Mathieu Van Der Poel aimerait bien, si c'était possible, conserver une année de plus, et qu'un certain Julien Alaphilippe rêve, lui, d'étraîner à nouveau. Bref, ils sont nombreux à le désirer, mais le maillot de champion du monde ne se laisse pas dompter par n'importe qui. Pour en parler aujourd'hui dans Grand Plateau, le dernier des Mohicans, mais oui, le dernier Français à avoir décroché une médaille mondiale dans l'exercice du chrono. Je ne dis pas qu'il a porté le maillot arc-en-ciel, il n'était pas loin, médaille de bronze, c'était en 2015. Il n'a toujours pas de successeur. Salut mon Jérôme, Jérôme Coppel est avec nous.
Salut Chris.
À ses côtés, celui qui rêve de se casser la voix comme il l'avait fait deux années consécutivement lors des succès mondiaux de Julien Alaphilippe, Arnaud Souk est avec nous.
Salut. Eh bien, Arnaud, figure-toi que j'y crois complètement. Salut Christophe, salut Jérôme, salut à toutes et à tous. Peut-être pas pour Julien Alaphilippe, mais on va en parler. Moi je trouve qu'on a quand même une équipe qui est peut-être la plus solide de toutes les équipes qui vont être engagées la semaine prochaine à Zurich. Enfin, ce dimanche à Zurich.
Tu dis ça parce que le sélectionneur va venir nous rendre visite tout à l'heure.
Notamment. Non, mais c'est vrai, quand tu regardes, c'est... Bon, voilà, c'est quand même pas mal.
C'est pas mal. Ça manque peut-être d'un mec au-dessus. On vient d'en citer trois. On va en parler dans un instant. On va essayer de partager nos avis. Voilà, Thomas Vauclair qui sera donc notre invité dans une petite vingtaine de minutes. Le sélectionneur national qui a un palmarès incroyable en tant que sélectionneur. Quel est donc le secret de sa réussite? Eh bien, il viendra nous en parler tout à l'heure. Mais tout de suite, retour donc sur le nouveau sacre de Remco Evenepoel, le maître des horloges du cyclisme mondial.
Remco Evenepoel, troisième du dernier Tour de France, champion du monde, multiple vainqueur de Liège-Bastogne-Liège, qui à 200 mètres de l'arrivée va passer aux côtés de la Tour Eiffel, sous la Tour Eiffel, et le voilà qui surgit du Pont d'Iéna en empereur, en triomphe. Il lève les bras au ciel. Remco Evenepoel, champion olympique de la course en ligne de cyclisme sur route, un triomphe absolu pour Remco Evenepoel maintenant.
Remco Evenepoel qui conserve son titre de champion du monde du contre-la-montre, le Belge tout simplement imbattable depuis le début de l'été sur cette discipline, vainqueur sur le Tour de France dans contre-la-montre à Nuits-Saint-Georges, champion olympique de la discipline et désormais double champion du monde.
C'est moi le patron!
Voilà, Remco capable de gagner en février, en mars, en juin, en juillet, en août et en septembre, qu'importe le mois ou la saison, le champion belge est un métronome. Hier, il a donc revêtu un nouveau maillot arc-en-ciel, celui du chrono, qu'il détenait déjà depuis l'an dernier. C'est la suite et peut-être pas la fin d'un été exceptionnel pour Remco. Il faut quand même rappeler qu'il y a un mois, Arnaud, il avait signé un doublé aux Jeux Olympiques et qu'on pensait peut-être que son été allait se terminer là. Le mec a toujours faim.
L'été continue, en tout cas l'automne commence très très bien pour Remco Evenepoel. On peut le placer clairement dans les favoris de la course en ligne pour dimanche prochain. Alors, il faut en plus rappeler qu'hier il s'est passé une drôle de mésaventure pour Remco Evenepoel, qui à moins d'une minute du départ s'est rendu compte qu'il avait un problème avec son dérailleur au moment de faire les ultimes tests.
Il fait un rétro-pédalage sur un monoplateau, c'est pas une bonne idée ça.
En tout cas, problème de dérailleur, il a pas stressé, il lui restait 25 secondes, le temps de vérifier si tout se passait bien. Il y a quand même un mécano qui est arrivé avec l'autre vélo, et puis on a appris après coup qu'il avait eu une autre mésaventure sur le vélo. Il n'avait pas de capteur de puissance. Et pour lui, qui est quand même un coureur qui a été élevé purement et simplement au capteur de puissance, faire 46 km sans capteur de puissance, ça n'a pas été forcément évident. Il a mis du temps à expliquer à sa voiture suiveuse justement qu'il avait un problème de capteur. Et il a dû après recevoir des consignes pour ne pas trop se mettre dans le rouge, des consignes de temps, etc. Mais il a dû faire ça un petit peu au pifomètre. On a vu qu'il était capable de le faire aussi.
Jérôme, finalement, tu vois, on n'a pas besoin de capteur de puissance, d'oreillette et tout ça. Ça peut fonctionner comme ça à l'ancienne.
Mais bien sûr, je fais que dire ça, surtout en chrono. Quand vous êtes un vrai spécialiste du chrono, vous n'avez pas forcément besoin d'un capteur de puissance. Bien sûr, ça aide, ça permet de gérer son effort, de ne pas partir trop vite. Mais si vous êtes un spécialiste, vous connaissez votre effort. Vous savez quand vous allez dépasser la ligne rouge, quand vous allez partir trop vite. Vous êtes capable de gérer tout ça. C'est ça qui fait la différence entre des vrais, des purs spécialistes comme Remco Evenepoel et d'autres coureurs qui aiment bien le chrono sans être des vrais spécialistes. C'est qu'il est capable de gérer son effort sans capteur de puissance. Et là où c'est d'autant plus remarquable, Arnaud l'a dit, c'est que lui, il a été élevé avec le capteur de puissance. Si je prends mon exemple à moi, j'ai fait énormément de courses et de chronos sans capteur de puissance. C'est arrivé après. Mais là, c'est vraiment, voilà, le mec se connaît à la perfection et c'est pas pour rien qu'il est de nouveau champion du monde et champion olympique de chrono.
Et on a eu un sacré duel quand même hier pendant 46 km. Je sais pas si on se rend compte. 6 secondes 43 seulement séparent Remco Evenepoel du vice-champion du monde, Philippe Ogana, qui avait déjà été vice-champion olympique le mois dernier. Je voudrais juste, voilà, vous dire 6 secondes sur 46 km en vélo, c'est l'équivalent presque d'un ou deux dixièmes en Formule 1 sur un Grand Prix de 60 tours. C'est
6 secondes.
C'est rien.
À 60 km/h, ça fait quoi en distance?
C'est rien. Ça fait.
Ouais, ça fait rien du tout. Mais ce qui est incroyable, c'est que c'est peu et beaucoup à la fois finalement. Parce que bien sûr, 6 secondes sur 46 km, voilà, on se dit, purée, c'est rien. Mais je suis sûr que Remco Evenepoel ne s'est pas dit où est-ce que j'ai été gagné ces 6 secondes.
Ganna.
Ouais, que Ganna, il s'est pas dit « Ah mince, j'ai perdu que pour 6 secondes ». Finalement, si tu perds pour une seconde, voire deux secondes, tu peux dire « Ok, j'ai fait une erreur de trajectoire ». Mais Ganna, là, ben voilà, il a été battu, mais il a parfait la course toute la nuit en se disant « Purée, les 6 secondes, j'aurais pu les reprendre ici et là ». Voilà, c'est peu et beaucoup à la fois, mais ça montre que ces deux coureurs-là, ils sont au-dessus du lot quand on parle de chrono.
Ouais, parce que quand on voit quand même, c'est un exercice de spécialiste. Alors certes, il y avait une bosse au milieu, mais bon, c'était pas non plus une bosse qui était absolument insurmontable. Quand on voit d'autres spécialistes comme Joshua Tarling, par exemple, qui termine 4e à 1 minute 17, Stefan Küng, qui termine 8e à 1:48, Victor Kampenaerts, qui termine 9e à 1:55, voilà, Brandon Magnulti également, qui est quasiment à 2 minutes en 10e position. On se dit quand même que ces deux-là, ouais, ils sont vraiment une patte au-dessus de tout le monde. Et oui, alors c'est, je suis d'accord avec toi, on n'a pas senti Remco Evenepoel particulièrement en danger hier sur ce chrono. Simplement, voilà, quand tu as 6 secondes à l'arrivée sur 46 km, c'est une seconde en gros tous les 8 km. Ça veut dire qu'ils se sont séparés de seulement une seconde tous les 8 km. Donc c'est un dixième de seconde au kilomètre en fait.
C'est
dérisoire.
Et ce qui est beau avec ces deux coureurs, c'est qu'ils ont deux profils complètement différents. Vous avez un Ganna qui est vraiment le stéréotype du rouleur. Voilà, quand on parle chrono, on s'imagine un Philippe Ogana, grand, puissant, bien posé sur sa machine. Puis en face, qu'il a battu et au JO championnat du monde, Remco Evenepoel, tout petit, bien posé, voilà, une petite bombe sur son vélo. Et finalement, bah là, un coup c'est Ganna, un coup c'est Remco. Là, les deux dernières confrontations sur les deux grands événements ont tourné à l'avantage de Remco Evenepoel. Sachant que Remco avait un petit avantage, c'est que, ok, il n'avait pas de capteur de puissance, mais il partait derrière Ganna. Du coup, il a eu les temps intermédiaires et il savait où il en était par rapport à Ganna. Ça, c'est quand même un sacré avantage quand vous partez après. Et comme il avait un peu d'avance et qu'il n'était pas stressé, c'est quand même permis une célébration qu'on voit pas souvent en chrono, Remco Evenepoel.
Ah ouais, bon, enfin, il fait des célébrations toujours plus efficaces. On se rappelle
de sa célébration
de
la Tour Eiffel.
C'est magnifique.
Ouais, mais il avait connu une mésaventure d'ailleurs.
Il avait un peu plus d'avance,
mais souviens-toi, il avait aussi connu une mésaventure dans la cour du Louvre au moment où il avait une crevaison et où il avait eu de la chance.
Ah là, il était
entre guillemets d'avoir sa voiture derrière. Je dis bien de la chance parce que c'était pas si évident que ça quand on regarde le déroulé de la course. D'avoir à ce moment-là de l'assistance.
Quelle saison en tout cas, Jérôme, pour Remco. On a parlé des Jeux Olympiques, évidemment, ce doublé. Là, peut-être un nouveau doublé dimanche prochain. On rappelle également qu'il a battu Poggi en chrono sur le Tour de France. Il est capable de gagner à tout moment de la saison. Il a vraiment franchi un cap cette saison, même s'il n'a pas remporté le Tour. Mais quand même, ses objectifs ont tous quasiment été atteints cette année.
Bah, bien sûr, il gagne sa première course, il faut quand même se rendre compte, le 10 février. Le 10 février, il va peut-être terminer sa saison autour du 10 octobre. Il fait vraiment des saisons complètes. Souvent, on compare tous nos fantastiques, là, et Vingegaard. Il commence un peu plus tard, il se concentre sur le Tour et souvent, sa saison est plus ou moins terminée après le Tour. Remco Evenepoel, tout comme Pogacar, ce n'est pas du tout ça. Remco, il fait des saisons complètes et moi, ce qui m'épate, c'est ok, il est capable de gagner tôt dans la saison. Son objectif, c'était le Tour de France, son premier, il fait troisième, il atteint ça. Il arrive à rester concentré pour être double champion olympique. Et je me suis dit, ok, après les JO, il va exploser en vol, et il va se reconcentrer peut-être sur un Lombardie, les championnats du monde, ça va être compliqué. Pas du tout, il est encore là et il est encore champion du monde, il le sera peut-être encore dimanche. Mais moi, ça me faisait penser, quand je voyais le déroulé de sa saison, un peu à Bradley Wiggins en 2012. Voilà, le Tour était son objectif. Les Jeux Olympiques étaient à Londres, il était resté concentré comme un fou jusqu'au chrono de Londres. Il avait été champion olympique et après, il avait explosé.
Ah oui, non, tu parles, oui, d'accord, oui, oui.
Voilà, il avait abandonné les championnats du monde. Il n'avait pas réussi à poursuivre sa saison jusqu'à la fin. Et Remco Evenepoel, en fait, il fait des saisons ultra complètes. Et il est toujours là. On dit souvent Pogacar, toutes les courses qu'il fait, il gagne. Mais Remco Evenepoel, il n'est pas loin de ça non plus. Hein. À part quand il se pète la gueule, voilà. Ce n'est pas tout le temps de sa faute. Sinon, il gagne.
Il y a un petit détail quand même, c'est qu'il a en plus il a été pris dans une chute et il s'est cassé la clavicule au début du mois d'avril, ce qui l'a empêché de au moins à minima bien s'entraîner, correctement s'entraîner dans la perspective d'une préparation pour le Tour de France qui a forcément été un petit peu retardée, forcément été un petit peu perturbée. On se souvient quand il est revenu sur le critérium du Dauphiné, il avait gagné le contre-la-montre, mais ça avait été plus compliqué sur la montagne comme il s'y attendait. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je te vois faire un signe, Christophe, il avait un petit peu de poids à perdre.
Il n'était pas encore affûté.
Mais voilà, il faut aussi prendre tout ça en compte. Il a une résilience quand même, ce coureur, on en a déjà parlé, mais il faut se souvenir aussi de cette chute qu'il avait eue justement sur le Tour de Lombardie il y a quelques années, je dis justement parce qu'il sera sur le Tour de Lombardie le 12 octobre prochain. Cette chute qu'il avait eue, c'était en 2019, si je dis pas de bêtises, ou 2020, je me souviens plus. Voilà, en tout cas, il était revenu après des mois et des mois d'absence, et vraiment, il est très très résilient, quoi. On sent que c'est un coureur qui... Moi, je trouve même qu'il n'est pas encore à son top. Je pense qu'il a encore une marge de progression, Remco Evenepoel. Je sais pas ce que t'en penses, Jérôme.
Oui, j'espère. Remco Evenepoel, il a que 24 ans, alors c'est sûr qu'il va progresser. Alors, on a déjà parlé la progression technique qu'il pourrait avoir dans les descentes. On a vu sur le Tour de France, notamment, qu'il avait quelques progrès à faire là-dessus. Mais même physiquement, son niveau global va augmenter. Il va encore devenir meilleur en chrono. Il va encore mieux grimper. Avec l'expérience sur les grands tours, il sera encore meilleur. Les techniques d'entraînement font que progresser d'année en année, bien sûr qu'il va progresser. Et puis, c'est un homme de championnat aussi, Remco Evenepoel. Alors, OK, il a gagné un Tour d'Espagne, il a fait troisième du Tour de France, mais les courses d'un jour et encore plus les championnats, il est toujours là, mais il est toujours là, il gagne surtout. Parce que Tadej Pogacar, on va sûrement en parler plus tard, il est toujours là aussi sur les championnats, mais finalement, il est rarement gagnant sur les championnats. Que Remco Evenepoel, déjà, son premier chrono, il sortait de junior en 2019, championnat du monde chrono, il fait deuxième. Il n'est pas passé par la catégorie espoir, pouf, il fait déjà deuxième. Et après, voilà, il a déjà quasiment tout gagné dans les championnats, Remco Evenepoel. Champion olympique, champion du monde, champion d'Europe, il a quasiment tout gagné. Donc, les courses avec la pression ne lui font pas peur à Remco Evenepoel. Et au niveau de la préparation, voilà, il s'est arrivé au top le jour J, mais bien sûr qu'il va encore progresser dans les années à venir.
Et oui, on espère qu'il va progresser en haute montagne de manière à inquiéter Poggi et Vingegaard et se livrer un duel à 3. Ce qui serait tout simplement énorme. Alors, saison exceptionnelle pour l'instant pour Remco Evenepoel, et elle n'est pas terminée cette saison. Il a dressé un premier bilan hier soir après avoir décroché un nouveau maillot de champion du monde du chrono.
Ça a plutôt bien commencé durant le premier mois de la saison, puis j'ai eu un moment un peu difficile avec la chute, bien sûr. Ensuite, je me suis repris lors du Tour et aux Jeux Olympiques. Donc oui, je pense que ça fait déjà 3 saisons de suite que je performe à un très haut niveau et j'en suis vraiment fier. La saison n'est pas encore terminée, mais je pense qu'avec 7 victoires encore, ça enlève beaucoup de pression, notamment pour dimanche. Quelques jours de récupération maintenant, puis quelques bons entraînements. Et ensuite, avec une équipe très solide, nous allons à nouveau essayer d'aller chercher la plus haute marche du podium dimanche prochain. Après ça, je ferai encore quelques classiques en Italie, donc disons 3 grosses semaines à venir, puis après une bonne période de vacances.
Voilà, encore 3 semaines de boulot, 3 semaines à décrocher d'autres victoires parce qu'il est certain qu'il va encore briller dans ces 3 semaines, il est en pleine forme. Alors, il n'est jamais rassasié et rêve maintenant d'un doublé mondial. Le problème et la différence par rapport aux Jeux Olympiques, c'est que dimanche prochain, il y aura donc Tadej Pogacar au départ de cette course. Poggi, qui n'a, lui, Jérôme le disait, qui n'a jamais été un homme de grand championnat pour
Alors,
le moment.
Il n'a jamais été un homme de grand championnat, l'année passée, il a terminé troisième quand même du championnat du monde.
Ah, le podium était magnifique.
Était absolument magnifique avec notamment Mathieu Van Der Poel qui s'était imposé. Il faut se souvenir quand même qu'il est vice-champion olympique en 2021, Tadej Pogacar. Donc il avait terminé juste derrière.
Oui, mais deuxième pour lui, c'est.
Non, mais c'est pas non plus une pipe, quoi. C'est ça que je veux dire. Sur les courses d'un jour. C'est vrai que sur les championnats du monde, il a jamais vraiment brillé. Il y a aussi un détail d'importance, c'est qu'il a une équipe peut-être un petit peu plus encore que cette année. Ça sera moins vrai, mais jusqu'à présent l'équipe de Slovénie était quand même un petit peu moins performante que ne peut l'être l'équipe de Belgique. Donc ça c'est quand même un petit peu à son désavantage, Tadej Pogačar, je pense. Mais là cette année ça va être un petit peu différent parce qu'ils ont quand même une belle armada, les Slovènes, pour le coup.
Ouais, elle est pas mal l'équipe de Slovénie. Reste à savoir si tout le monde va rouler pour Poggi. A priori ça devrait être le cas.
A priori ça va être le cas, et a priori la Primoz Roglic devrait avoir sa chance, sa carte un peu plus personnelle à jouer.
Il sera protégé quand même, Roglic, Jérôme.
Ouais, alors il sera protégé, mais avec ce qu'il a montré sur le chrono, Primoz Roglic, on sent qu'il est moussé de sa saison et de la Vuelta, bien sûr, qu'il a remporté. Donc après, je connais pas l'entente qu'il y a entre les deux Slovènes, mais bien sûr...
Ils s'entendent bien.
Ouais, ils s'entendent bien. Il faudrait que Primoz Roglic se mette à la barre pour Pogačar. C'est vrai que Pogačar, il est quand même présent. Hein, c'est pas ce que j'ai voulu dire tout à l'heure. Il est là sur les championnats, mais il a finalement jamais remporté un titre majeur.
T'as raison.
Et là, le parcours de Zurich s'y prête parfaitement. D'après les bruits de Radio Peloton, il fait des chiffres qui sont énormes.
Depuis, oui, j'ai vu Monsieur Mou sur Twitter qui a prévenu tout le monde que Poggi n'avait jamais été autant en forme qu'en ce moment. Hein, c'est ça.
Oui, alors j'ai vu passer. Moi, je n'avais pas eu l'info par Mou, là, le fameux Mou de Twitter, mais il dit ça. Donc, si c'est vrai, si tout ce qui se dit est vrai, voilà, va falloir un grand Remco Evenepoel ou nos coureurs français ou d'autres pour pouvoir suivre Tadej Pogačar. Et on sait, il l'a dit, hein, dès le Tour de France, il disait « Maintenant, mon objectif, c'est les championnats du monde. J'ai envie d'avoir ce maillot de champion du monde. » Il a refusé une sélection aux Jeux Olympiques, alors pour différentes raisons, mais on sentait bien qu'il n'allait pas refuser une sélection pour les championnats du monde. Par contre, il veut ce maillot, il veut le porter au moins une fois sur toute une saison. Et on ne sait pas. D'ailleurs, moi, j'étais un peu surpris qu'il ne s'aligne pas sur le chrono, parce qu'il est capable de faire un podium sur le chrono. Mais lui, ce qui l'intéresse, c'est le maillot. On a parlé de Evenepoel et Ganna. Je pense pas qu'il aurait pu jouer avec eux sur le chrono, mais par contre sur la course en ligne, voilà, il veut absolument aller chercher sa victoire.
Juste un petit mot de l'équipe de Slovénie, puisque je vous disais qu'elle sera quand même bien fournie. Tadej Pogačar notamment, Primoz Roglic, Matej Mohoric, Jan Tratnik, Luka Mesgec, Domen Novak et Matevž Govekar. Donc voilà, on a quand même 7 coureurs.
Quand même une génération exceptionnelle pour la Slovénie.
Là franchement,
c'est quand même
pas mal. Alors à mon sens, ça reste un petit peu en dessous quand même de ce que peuvent nous fournir les Belges et de ce que l'équipe de France sera en capacité également de fournir, en tout cas sur le papier, si on accepte évidemment Tadej Pogačar. Mais c'est vrai que, est-ce que de toute manière cette année il a besoin d'une équipe, Tadej Pogačar? Parce que quand on voit un petit peu
sa façon de faire,
notamment, alors bon, sa façon de faire sur le Tour de France évidemment, même si UAE a amplement essoré l'adversité, mais c'est ce que j'allais dire, sur le Grand Prix de Montréal, franchement, je pense qu'il aurait pu être tout seul, il aurait fait ce qu'il voulait. Donc je pense que ça va dépendre de ça aussi. Il va falloir courir très très intelligemment, mais je fais confiance à Thomas Vauclair pour le faire.
Justement, Tadej Pogačar, il a besoin d'une équipe juste entre guillemets pour pas se faire piéger, ou pour redresser une situation qui est mal embarqué. Il se fait piéger, il y a des favoris devant, voilà, la Belgique, la France, etc. Il va mettre son équipe à la barre pour redresser la situation. Après, quand on va rentrer dans le money time et dans les derniers kilomètres, ben voilà, après c'est à la jambe, et puis là on connaît Tadej Pogačar, il n'aura pas beaucoup de rivaux.
Ouais, pas beaucoup de rivaux. Evenepoel est capable de s'accrocher. On l'a vu sur le Tour de France, sauf en haute montagne, en très haute montagne, mais autrement, il arrive quand même à prendre la roue de Poggi. Hein.
Alors oui, il y arrive. C'est vrai que c'est son. On va y venir peut-être au parcours. Ouais. On va pas être sur des longs cols. Donc c'est vrai que Tadej Pogačar en la matière aura peut-être un petit peu plus de mal potentiellement, on va dire, à décomponner Evenepoel que ça n'a pu être le cas dans des cols qu'arriver à 2000 mètres d'altitude. Moi, je pense qu'il est quand même largement favori, Tadej Pogačar, sur ce qu'il a montré depuis quelques semaines. C'est vrai que on a Remco Evenepoel également qui fait partie, à mon sens, des grands favoris, mais voilà, hein, il va falloir aller les chercher. Les autres, on parle de Mathieu Van Der Poel. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas Mathieu Van Der Poel? J'ai peur que ça soit vraiment un tout petit peu trop dur pour lui. Je sais pas ce que t'en penses, Jérôme. Ça me paraît quand même très très dur.
Bah, ça paraît très dur. Il a dit qu'il avait perdu du poids, justement, comme le parcours est très difficile. Je suis d'accord avec toi. Pour moi, Pogačar, c'est le grand favori. À la pédale pure, à part Remco Evenepoel, je vois pas qui pourrait vraiment s'accrocher à Tadej Pogačar. Maintenant, ça va nous donner une belle course. Pourquoi? Parce que les autres nations qui n'ont pas de coureurs capables à la pédale de suivre Pogačar, ils vont devoir faire une course de mouvement, essayer de le piéger, et on devrait avoir une superbe course. Maintenant, Van Der Poel, voilà, on sait sait qu'il est capable quand même. Il a déjà montré sur ce type de circuit, ne serait-ce qu'aux Jeux Olympiques, par exemple, où il était très fort. Ça ne s'est pas vu dans le résultat, mais où il était très fort. Il est capable de passer ce type de bosse. Maintenant, il y aura plus de 4000 mètres de dénivelé. C'est quasiment une étape de montagne.
Ah oui.
Mais attention, par rapport à un Tour de France, c'est un championnat du monde, c'est une course en circuit. Et ça n'a rien à voir avec une étape en ligne. Donc, même s'il y a beaucoup de dénivelé, course en circuit, vous avez des coureurs qui sont faits pour des courses en circuit et d'autres qui ne sont pas faits pour ça, qui n'aiment pas ça. Et Mathieu Van Der Poel, il adore ça et on sait que c'est aussi un homme de grand championnat.
Qu'est-ce que ça change, Jérôme? Parce que la répétition des efforts. Tu sais à quel moment tu vas devoir faire les efforts alors que tu le sais peut-être un peu moins dans une étape en ligne où c'est.
Ouais, déjà, il y a le côté simplement monotone en fait. Vous faites toujours le même parcours, toujours la même boucle, donc toujours au même endroit, il faut aller se replacer à l'avant du peloton, toujours il faut aller frotter au même endroit et puis tous les coureurs font la même chose. Si vous êtes mal dans un endroit du parcours, dans une bosse, vous allez la retrouver tous les tours. Donc mentalement, vous dites purée, ça fait 3 tours que je galère dans cet endroit-là, et ben il va vous en rester 10 encore à passer dans cette bosse-là. Alors que sur une course en ligne, vous êtes mal sur une montée, sur une portion, vous savez qu'après elle est passée, vous allez peut-être pas en retrouver comme ça. Et là, les difficultés reviennent aussi souvent beaucoup plus vite. Et ça se court pas du tout de la même manière. Moi, j'ai l'image d'un Anthony Roux, par exemple, qui est un bon pote à moi, qui a pris sa retraite il y a pas longtemps. L'homme de circuit par excellence. Sur les championnats, il était toujours présent. Et ça, c'est... Moi, par exemple, je détestais les courses en circuit. Parce que j'aimais pas tourner en rond, même si c'est des grands circuits, t'es toujours au même endroit, tu fais toujours les mêmes boucles. Alors oui, t'as les spectateurs, etc. Mais moi, je préférais largement des courses en ligne que des courses en circuit, par exemple.
Très bien. Ben, nous allons voir si Thomas Vauclair préférait les courses en circuit ou les courses, les étapes d'un Tour de France. Il est avec nous, le sélectionneur national, le sorcier du cyclisme français. Salut Thomas.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Salut Thomas.
On est ravis de t'accueillir. Thomas, toi, les courses en circuit, lorsque tu étais coureur, c'était un truc qui te plaisait ou la monotonie?
Ouais, j'écoutais là depuis 2-3 minutes. En fait, on s'en fiche un petit peu, je crois, de ce que j'aimais moi, puisque c'est pas moi qui vais pédaler ce week-end. Et non, pas sorcier. Sorcier, il fait de la magie. Moi, je fais surtout pas de magie. Hein. J'aime pas trop ces termes. Allez, je vais quand même répondre à votre question. Au niveau français, j'ai eu la chance d'être deux fois champion de France. Donc ça ne me déplaisait pas. Ouais. Au niveau international, j'ai plutôt subi dans les championnats du monde que j'ai pu disputer. Allez, le seul où je n'ai pas vraiment subi, c'est quand il y avait Jérôme Coppel qui était à mes côtés. Là. Donc, je ne sais pas si c'était grâce à lui, mais c'était un beau souvenir qu'on avait en 2012, je crois.
Ouais, c'était un super souvenir. On va en parler après de tout ça. Mais moi, ce qui m'avait marqué sur championnat du monde, c'est 2012 à Valkenburg. C'est que tu étais le leader unique et tu dégageais déjà ce truc de cohésion. Vraiment, on était tous à la planche pour toi et on ne se posait pas du tout de questions. Je crois que tu avais dû faire 7e ou 8e, mais je pense que tu avais largement le podium dans les jambes. Et maintenant, quand je te vois sélectionneur, j'ai pas eu la chance de t'avoir comme sélectionneur, mais je pense que dans les briefings, ça ressort la même chose que tu donnais quand tu étais leader de l'équipe, finalement. Donc voilà, c'est vraiment ce côté cohésion. Tu arrives à réunir des mecs qui sont adversaires le reste du temps sous le même maillot pour une course, mais à créer un truc, à vraiment créer une équipe. C'est ce qui s'était passé avec nous en 2012 et ce qui se passe depuis que tu es à la tête de l'équipe de France.
Voilà, Thomas, c'est la clé du succès, c'est d'avoir justement d'arriver à fédérer, d'arriver à prendre des stars et qui se combattent finalement tout au long de l'année et d'arriver à leur fixer cet objectif et qu'ils aient tous en tête le maillot bleu et la victoire d'un Français.
Ouais, parce que ce que dit Jérôme, ça me touche, hein, c'est très sympa. Au-delà de ça, c'est vrai que pendant ma carrière en tant que coureur, ben moi j'étais vraiment focus sur mon truc, quoi, et je pouvais aussi passer pour une tête de con à juste titre. Des fois, j'étais souvent un peu des fois mal perçu par d'autres, parce que voilà, mais c'est vrai qu'à ma place aussi, sans vouloir me la raconter, j'avais quand même beaucoup de sollicitations au niveau média, au niveau du public. Ça pouvait être pesant pour moi, même si j'étais un bon client pour les médias pour le public, justement. Mais c'était lourd aussi à porter pour moi. Donc, eh bien, j'avais trouvé cette solution pour me protéger, de me faire une espèce de carapace. Et c'est vrai que ouais, j'assume sans problème, mais j'avais pas trop de choix que de passer pour un con. Et puis c'est vrai qu'après, quand c'était à l'intérieur de mon équipe, et en 2012 en l'occurrence l'équipe de France, eh bien c'était mon équipe, Jérôme en faisait partie, c'est-à-dire que c'était pas, elle m'appartenait pas, mais j'étais, et donc c'était assez naturel de faire corps, quoi. Donc, en gros, les adversaires, pour moi, c'était des ennemis. Et puis, ceux qui étaient tout au long de l'année ou à une occasion précise dans la même équipe, eh ben, on faisait corps, quoi. Et puis, ben, alors, pour répondre à la question, est-ce que c'est une des clés du succès? Moi, je n'ai pas de recette miracle, ça, c'est clair. Surtout pas qu'on s'habitue. Voilà, le vélo, on le sait, hein, ce n'est pas un match de tennis où il y a un gagnant, un perdant, il y a un vainqueur, un classement. Ça, c'est une formule que je ressors souvent. Mais ce qui est sûr, c'est que si on n'a pas l'état d'esprit collectif, on part déjà avec un handicap, quoi. Donc, ouais, c'est l'esprit collectif, c'est pour moi le premier critère avant même la performance, le niveau individuel du mec, quoi.
Ton bilan, malgré tout, Thomas, à la tête des Bleus est exceptionnel. Hein. C'est le plus beau de l'histoire des sélectionneurs. Je crois qu'il y en a un qui a fait mieux, c'est Marcel Bidot qui a occupé ton poste entre 52 et 69. Oui, mais à l'époque, le sélectionneur avait aussi l'équipe de France pendant le Tour de France. Et il avait un Jacques Anquetil sous ses ordres. Donc ça peut aider quand même. Hein. Tu rêverais d'avoir une équipe de France sur un grand tour comme ça s'est fait fut un temps?
Ah, bonne question. J'ai jamais imaginé ça. Au-delà de ça, je me suis déjà demandé ce que ça donnerait un tour, les grands tours, pourquoi pas sous équipe nationale, sans penser à moi du tout. Ouais, je crois que là, on pourrait peut-être en rêver, mais ça restera au stade du rêve. Hein.
Malheureusement.
Voilà, les enjeux économiques qu'il y a aujourd'hui, le coup de Tour de France, voilà, il n'y aura pas d'équipe nationale. Mais l'équipe nationale, justement, c'est un sport, le vélo. Hein. Si toutes celles et ceux qui écoutent Grand Plateau, comme ça m'arrive quand ça sort des fois, eh bien, on connaît le sport cycliste et on sait que c'est pas comme un sport collectif où il y a des rassemblements, où il y a tout un calendrier dans l'année. C'est deux fois ou trois fois par an les années olympiques. C'est selon les parcours, ça concerne certains types de coureurs ou pas. Donc, c'est rare de pouvoir prétendre à venir en équipe de France. Et les gars ont rien à gagner quand ils viennent. Au niveau financier, je parle, ils ont rien à gagner. Ils ont la fierté de porter le maillot avec, parce que c'en est une. Moi, je suis fier d'être coach. Franchement, je suis vraiment fier d'être à la tête de cette équipe. Et puis, tu parles du bilan. Oui, c'est une chose. Je ne vais pas cacher que, bien sûr, que je suis content, quoi. Mais si je ne me retourne pas là-dessus, parce que sinon... Sinon, c'est le début de la fin, quoi. C'est nul. Je fonctionne vraiment pas comme ça, quoi. Là, il y a deux semaines, c'était les championnats d'Europe qui arrivaient. Là, c'est les championnats du monde. Il y a assez de travail pour se concentrer sur l'événement en lui-même plutôt que se dire « Ah, punaise, le bilan est bon », parce qu'il y a aussi eu des fois où ça n'a pas marché. Et ce que je dis souvent, alors forcément, des fois, ça fait un peu réchauffer parce que je l'utilise souvent, mais c'est vraiment ce que je pense, quoi. Quand ça marche, eh bien, on peut toujours améliorer. Quand ça ne marche pas, tout n'est pas acheté, quoi. Si on prend l'exemple du dernier championnat d'Europe, Chris 9e, Arnaud 11e, l'état d'esprit, franchement, vu le parcours proposé, l'équipe de France, elle a été admirable, quoi. Il n'y a rien à regretter. C'était une super journée de vélo. Les mecs, ils ont été super. Et à contrario, par exemple, en Australie, quand Christophe va faire vice-champion du monde, eh ben, j'ai pas peur des mots. À 10 bornes de l'arrivée, eh ben, j'ai dit, c'est pas possible. On va pas mettre un mec dans les 15 ou dans les 10 avec l'équipe qu'on a au départ, quoi. Et cet état d'esprit, dans les 5-6 derniers kilomètres, ils se sont sacrifiés, les Bebeux, les Julians, les Val et tout. Et ils sont allés revenus sur ce groupe de contre qui avait pas trop d'infos, qui se regardaient. Et Chris allait faire deuxième. Donc là, ouais, on pourrait se dire, punaise, vice-champion du monde derrière Remco Evenepoel, qui était le plus fort ce jour-là, c'est clair. Eh ben non, on aurait pu mieux faire, ouais. On aurait dû mieux faire en course. Voilà, faut pas se satisfaire de ça. Il faut pas dramatiser quand ça marche pas. L'an dernier, Glasgow, premier, Valentin Madouas, 15e. Chris a crevé au pire moment de la course. C'était notre carte maîtresse vu le parcours et vu sa forme, ça c'est vrai. Ça fait partie du vélo. Eh ben, l'état d'esprit, il était bon aussi, quoi. On n'était pas assez fort sur le circuit qui était proposé. Et de la force, eh ben, il en faudra, face aux coureurs que vous venez de citer, là, juste avant.
Arnaud, tu voulais...
Non, mais juste, puisqu'on parlait du palmarès de Thomas Vauclair à la tête, ouais, de l'équipe de France, rappeler les deux titres de champion du monde de Julien Alaphilippe, donc la médaille d'argent de Christophe Laporte à Wollongong en 2022, titre de champion d'Europe pour Christophe Laporte, et puis Valentin Madouas, vice-champion olympique, Christophe Laporte, médaille de bronze, donc voilà, c'est quand même pas mal. J'en oublie sans doute au passage.
Les deux médailles d'Arnaud Démare au championnat d'Europe, 2020-2023, voilà. Et puis la médaille de bronze de Bebe à Trento. Et puis, alors c'est sûr que c'est pas une course en ligne, mais la valeur n'est pas moindre. Hein. Rémi qui a terminé deuxième du chrono Indive en 2020 à Plouay, aux Europes. Et puis le relais mixte qui nous a fait le plaisir, les filles, les garçons, qui sont champions d'Europe en 2023 et vice-champions du monde. Donc j'aime bien rajouter les voilà, Bebe, Trento, on oublie des fois, mais il y avait une course d'équipe avec justement des leaders dans leurs équipes respectives, et que ça soit les Bardet, les Barguil, les Pinot, Aurélien Paré-Peintre, ils avaient tous le statut de leader chez eux et ils se sont tous sacrifiés pour Benoît Cosnefroy ce jour-là. Quoi. Donc vraiment, c'est pour moi une des plus belles satisfactions d'état d'esprit Trento 2021.
Alors, c'est difficile évidemment d'en sortir un, mais la course qui t'a procuré le plus de plaisir, le plus d'émotion, c'est vrai que nous, on a en mémoire ce qui s'est passé cet été à Paris parce que c'était les Jeux Olympiques, parce qu'il y avait une telle ferveur dans les rues de Paris que franchement, c'était exceptionnel. Et puis là, vous jouiez quand même pas parmi les favoris, hein. Evenepoel bon, a gagné, mais on imaginait mal voir deux Français sur le podium. Quel est ton plus beau souvenir, Thomas? Est-ce que ça en fait partie, ou c'est la victoire de Julien?
Sincèrement, faire un classement, ça collerait pas avec ce que j'ai dit avant.
Non, mais pas un classement, mais voilà, juste sortir.
Chaque truc est différent. Après, je suis le premier à dire qu'il faut savoir savourer, donc je savoure quand il y a des trucs bien, faut pas tout envoyer bouler quand c'est pas bien. Et j'espère que je répondrai à cette question en me disant Zurich 2024. Donc, voilà, et comme ça, voilà, c'est ce que j'ai en tête. Quoi. Ouais. Et voilà, si, alors, je suis ambitieux, hein, l'équipe de France est ambitieuse, et j'ai les pieds sur terre, je suis lucide, je sais comment est le circuit, je sais qui est favori, le premier, le deuxième, le troisième favori. Et puis on va faire en fonction de tout ça, quoi. Ouais.
Alors on va rappeler ton équipe, hein,
oui, quand même.
Les 8 coureurs évidemment.
Les 8 fantastiques.
Les 8 fantastiques.
Alors du beau monde évidemment avec le maillot de l'équipe de France, donc leader probable, mais ça peut-être que Thomas nous dira différemment. Julien Alaphilippe, double champion du monde, récent 3e du Grand Prix de Montréal et qui reste de Québec ou de Montréal, j'ai un doute, et qui reste en tout cas un homme de grand championnat. À ses côtés, Romain Bardet, deux fois sur le podium du classement général. Du Tour de France, vainqueur d'étape et maillot jaune en début de tour cette année. Valentin Madouas, vice-champion olympique cet été à Paris, lieutenant dévoué qui sait aussi se muer en insatiable attaquant. David Gaudu également sera là, hein, récent 6e de la Vuelta, vainqueur d'étape sur le Tour du Luxembourg hier et de retour en forme après quelques mois de galère. Et puis pour accompagner ces quatre flèches, hein, j'ai envie de dire, des hommes de main, le dur au mal, Julien Bernard, l'expérimenté Rudy Mollard, le polyvalent Pavel Sivakov, le jeune Romain Grégoire et donc le tout avec en chef d'orchestre Thomas Vauclair. Une équipe solide, peut-être même, je l'ai dit, je vais le répéter, peut-être que je vais là aussi me faire taper sur les doigts, le collectif pour moi le plus solide, hein, au départ de ces mondiaux. Il faudra être malin quand même pour espérer mettre à mal la Slovénie de Tadej Pogacar, la Belgique de Remco Evenepoel ou encore les Pays-Bas de Mathieu Van Der Poel, mais avec une équipe comme ça quand même, on a le droit de rêver, je pense.
Et le sélectionneur rêve, forcément.
Non, je suis pas un rêveur. Je rêve pas. Je rêve pas, mais je suis ambitieux et lucide, voilà. Mais ouais, c'est clair que quand on regarde les déroulements du Grand Prix, par exemple, récemment au Canada, que ça soit Québec, Montréal, vous avez vu qu'il y a des Slovènes, qu'ils soient chez UAE ou pas, qui marchaient bien. On sait qu'il y a Roglic qui vient en plus en soutien. Voilà, il y a Remco Evenepoel qui sera là, on n'en doute pas. Van Der Poel. Qui a fait du mondial un objectif. Hein, il n'y a qu'à regarder son physique pour voir qu'il n'est pas là pour faire le Tour des Flandres ou Paris-Roubaix. Il n'est pas au même poids. Donc, voilà, c'est un parcours exigeant. Vraiment, c'est dur. Il y a les chiffres, hein, 273 bornes sans le fictif, 4400 mètres de dénivelé. Et ensuite, il y a la réalité du terrain. La réalité du terrain, c'est quoi? C'est que des fois, on sort, la stratégie, mais bien sûr que c'est important, mais l'état d'esprit, ça vient pour moi avant. Et puis après, il faut savoir s'adapter à aux ambitions des équipes adverses aussi, quoi, se focaliser sur un tel. On parle de leadership ou quoi. La France, je suis très fier de l'équipe qu'on aligne. Il y a d'ailleurs des coureurs qui auraient pu prétendre être dans la sélection après leur belle Vuelta ou les Grands Prix au Québec-Montréal. Après, c'est mon rôle de faire des choix. Ce qui est sûr, c'est que si on se dit on va suivre Pogacar et puis une fois qu'il aura fait son effort, on va le contrer au plus dur de la pente, c'est qu'on n'a pas bien suivi le vélo ou qu'on ne sait pas trop ce qui se passe, quoi, qu'on ne connaît pas le niveau des uns et des autres. Par contre, oui, moi j'y crois parce que si moi j'y crois pas, les gars ils y croiront pas, quoi. Ouais. Donc je vous dis pas qu'on va être champion du monde, qu'on va battre Tadej Pogacar, Remco Evenepoel et Van Der Poel. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'y va pas pour aller en se disant bon, on verra bien ce que ça donne, les autres sont plus forts. bon, on va essayer, on va se battre, on va donner le meilleur de nous-mêmes et on verra. Mais après, c'est une course de vélo, quoi. On va...
ouais. Mais oui, et puis sans ça, t'as jamais deux médailles au JO, quoi. Hein, si tu raisonnes comme ça, effectivement, si tu te dis on est battu d'avance, sans ça, t'as jamais les deux médailles que t'as au JO, quoi.
Ouais, et puis au-delà de ça, on prend pas le départ, quoi, c'est tout. On prend pas le départ. Alors, il y a une chose aussi, c'est que je tiens ce discours parce que j'y crois, c'est pas une façon de motiver qui que ce soit ou de d'être encore plus derrière l'équipe de France. J'espère que vous serez tous derrière l'équipe de France.
Ah, bloc,
bien sûr.
Celles et ceux qui écoutent. Mais il faut dire aussi la vérité, c'est qu'on n'est pas non plus au départ du Tour de France où il y a 21 jours avec des chronos et des étapes de très haute montagne et où, vous le savez bien, sur RMC, on sait très bien que s'il y a Vingegaard et Pogacar à 100%, même si on a un coup de moins bien un jour, eh ben, y a des séances de rattrapage. Et il y a la réalité avec les étapes de haute montagne, arriver au sommet. Là, on n'en serait pas champion du monde. On n'aurait aucune chance d'être champion du monde. Alors là, on n'a pas beaucoup de chance d'être champion du monde, mais elle existe et on va tout faire pour la saisir. Ça, c'est
comment on prépare une telle course, Thomas ? Alors, tu ne vas pas nous donner tes secrets, mais est-ce que tu échafaudes plusieurs scénarios, plusieurs scénarii ? Est-ce que tu vas décider de harceler tout au long de la journée les grands leaders ? Comment ça se prépare ? Est-ce que tu fais du tableau noir ? Est-ce que tu en parles avec tes adjoints ? Est-ce que tu en parles avec tes coureurs ? Comment on prépare ? Essaye de nous expliquer un tout petit peu, même sans donner tous les secrets de réussite. Hein.
Alors, comment on prépare ? Déjà, c'est beaucoup de réflexion. Hein. C'est vrai que ce que je peux dire, je l'ai déjà déclaré, moi, là où je fais plus mes sélections et mes idées de course, c'est quand je suis tout seul sur mon vélo.
Ouais. Alors, ou alors sur ton vélo, d'accord.
Je ne me pose pas un bureau en regardant les listes, les classements. Bien sûr, j'ai l'œil, je regarde tout ça. Mais là où j'imagine, après, c'est pas comment on prépare, c'est comment c'est ma manière, quoi. Après, j'ai des convictions, certitude, le mot est un petit peu fort. Et après, il faut aussi pas que je sois arc-bouté sur mes idées. Et puis, je suis surtout dans l'échange, quoi, et avec les coureurs. Et puis, je veux qu'ils aient confiance en moi pour pas que je leur vende du rêve et pas que je leur demande l'impossible. Mais justement, que je leur qu'ils aient confiance et que. Et qu'on soit raccord. Alors, pour ce qui est des plans, oui, mais c'est mon travail d'essayer d'anticiper ce qui peut se passer. Mais c'est mon travail aussi de dire la réalité, c'est qu'il peut aussi se passer des choses qu'on n'anticipe pas, et c'est le charme du vélo. Ça peut être à notre avantage et ça peut être à notre désavantage. Il faut être prêt à savoir assimiler le jour de la course. Hein, le gros élément aussi, c'est qu'il n'y a pas d'oreillette. Hein. Pour tout le monde. Tout le monde. Et ça change énormément par rapport à ce que les coureurs ont l'habitude d'avoir toute l'année. Quoi. C'est clair que c'est. On le dit qu'il n'y a pas d'oreillette, mais je ne sais pas si on se rend compte à quel point ça a une influence sur la course. À nous de faire en sorte que ça soit dans le bon sens pour nous, parce que c'est pour tout le monde pareil. Il n'y a pas que l'équipe de France qui n'a pas d'oreillette. Quoi.
Et on l'a vu, Jérôme, justement, lors des derniers Jeux Olympiques. Hein, ça change pas mal de choses hein, dans la stratégie, le fait de ne pas avoir d'oreillette. Et l'instinct du coureur ressort un peu plus. C'est l'instinct de son sélectionneur, de son patron aussi. Hein.
Ouais, exactement. Et c'est là où j'aimerais que Thomas nous explique un peu plus, parce que, tu l'as dit, il n'y a pas d'oreillette. Alors, est-ce que tu mets en place est-ce que tu as des capitaines de course, on va dire, peut-être un Julien Bernard, un Julien Alaphilippe qui ont un peu plus d'expérience, et surtout, si tu peux expliquer à ceux qui vont écouter le podcast, comment tu passes tes infos, parce qu'il n'y a pas d'oreillette sur des circuits, c'est pas toujours facile de descendre à la voiture, de prendre des infos. Est-ce que tu places des membres du staff tout au long du parcours avec des ardoises, des codes? C'est qu'à notre époque, c'était un peu comme ça, mais depuis, ça a peut-être changé. Comment est-ce que tu arrives à transmettre le maximum d'infos aux coureurs du fait qu'il n'y ait pas ces oreillettes?
Alors, sur les histoires de capitaine, moi, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que chacun ait un rôle, hein, qui peut pourquoi pas évoluer selon le scénario de course. Hein, chacun a un rôle, un statut et un rôle, on va dire. Et ces deux, que ce soit le statut ou le rôle, peut évoluer au fil de la course, au fil des jours précédents ou des semaines précédentes aussi. Et en ce qui concerne le passage d'infos, et bien c'est comme les autres équipes, on a du staff, hein, vous avez vu, il y a les courses, les catégories de jeunes, donc on est toute l'équipe de France au sens large, que ce soit les juniors, les espoirs, que ce soit masculin ou féminin. Et donc, c'est vrai que le dernier dimanche, tout le monde est sur le pont, à différents endroits du circuit qu'on a identifiés en amont, avec soit des passages ardoises et ou voies, à la voie tout simplement, et tout l'intérêt... toute la difficulté plutôt avec les groupes qu'on peut avoir aujourd'hui hein, sur les téléphones, c'est de passer les infos en temps réel, d'avoir le temps de les transmettre, que les coureurs savent très bien que s'il y a du staff qui leur passe les infos, l'info elle vient de moi. faut aussi faire attention que l'adversité, parce que si vous braillez sur un de vos coureurs, eh bien l'adversité, ils entendent aussi. Donc, faut tenir compte de ça. Des codes ou pas sur les ardoises. Il y a des nations qui le font, d'autres qui ne le font pas. On a pu le faire. Est-ce qu'on le fera? On verra. Et puis, il y a aussi la bonne vieille méthode qui est de descendre à la voiture quand la situation de course le permet et quand le parcours le permet aussi. Et sur un circuit, surtout aussi urbain, des fois, ce n'est pas si évident. Parce que quand on est à la voiture, ouais. Je termine là-dessus, à la télé, on se dit « Ah, il peut aller à la voiture ». Mais si vous avez un groupe qui vient d'être en difficulté, il y a 40 secondes d'écart, et de parler aux coureurs qui sont lâchés, ça va vous servir à rien puisqu'il n'a pas les jambes pour revenir pour passer l'info. Donc on ne peut même pas toujours à la voiture parler. Donc voilà, c'est vrai que des fois dans la voiture, on se dit « punaise, il faut savoir ça ». Et si on, quand on prend un Christophe Laporte qui ne sait pas qu'il fait médaille de bronze quand il arrive, eh bien, je ne pouvais pas lui passer l'information en disant « Écoute Christophe, Valentin est deuxième quelques longueurs devant toi, Remco il va filer tout seul, t'arrives pour la place de 3, surveille bien les autres, ne passe pas de relais, si tu gagnes le sprint, tu vas faire médaille de bronze. »
Fallait écouter Marc Madiot sur RMC.
C'est-à-dire qu'il y a une seule info qu'on peut passer, « passe pas ouais, ». Voilà, c'est tout, je passe dans Montmartre avec du monde. Si déjà il a compris, et ça a été le cas, qu'il fallait qu'il passe de relais. Après, il sait que c'est moi qui passe la consigne et il sait qu'il peut me faire confiance. Quoi.
Justement, Christophe Laporte, tu ne l'as pas mis dans la sélection. Pour quelle raison il n'y est pas justement dans la sélection?
Bon, écoutez, franchement, 4400 dénivelé, 273 km. Christophe, c'est vrai qu'il est... La question n'est pas bête du tout. Parce que Christophe, on l'a vu des fois, notamment l'an dernier, sur le Tour de France, en haute montagne, faire des tempos de folie et qu'il ne reste que 40 mecs dans le peloton. Quoi. Chris n'est pas là, j'ai estimé que, comme je l'ai déclaré dans le journal de l'équipe, que sur un tel parcours, avec une telle opposition, même malgré son palmarès, son état de forme qui est bon, il n'était pas, pour moi, dans le coureur capable d'être le plus utile pour un intérêt perso ou collectif face à l'opposition à laquelle on a. Quoi.
Et juste un mot, Thomas, sur l'ensemble de ton équipe. Je disais tout à l'heure, moi je trouvais que c'était l'un des collectifs, quand tu regardes un petit peu les équipes des Pays-Bas, d'Espagne, d'Italie, de Belgique, il y a évidemment de très très beaux effectifs, mais on a quand même l'impression que celui de l'équipe de France, il a vraiment vraiment de la gueule. Il est, j'ai envie de dire, presque plus homogène que tous les autres effectifs.
On disait ça aussi, et je le pensais aussi au moment du championnat du monde en Australie. Et on a eu une magnifique deuxième place derrière le coureur qui aurait gagné de toute manière, je pense, Remco, tellement il était fort. Et pourtant, on a bien mordouillé, je m'inclus dedans. Quoi. Donc, surtout, voilà, il y a le papier. Si on regarde au JO, eh bien, il y avait aussi du Pedersen, du Van Der Poel, du Wout Van Aert. Je ne suis pas sûr qu'on aurait cité les deux. Voilà. On n'est pas au JO, c'est juste pour dire tout simplement... Il y a le papier, il y a les chiffres, et après il y a la réalité du terrain, quoi. Mais c'est vrai que c'est quand même un parcours très très particulier, et tant mieux, parce que c'est un peu plus incertain que s'il y avait une montée de 4 km à faire tous les 15 km et l'arrivée au sommet, quoi. C'est clair que je préfère comme ça, c'est pas un gage de réussite du tout, mais ça m'incite plus à y croire.
Jérôme ?
En quoi, Thomas, tu trouves ce parcours, il est particulier? Je me rappelle de Glasgow, on disait que c'était quasiment un critérium, il y avait des virages dans tous les sens, etc. Là, est-ce qu'il est vraiment... Parce qu'on sait qu'il est difficile, tu l'as dit, les 4400 mètres de dénivelé positif, mais est-ce qu'il est très technique? Est-ce qu'il y a moyen de se replacer ou à l'inverse, de se faire piéger sur une faute de placement? En quoi il est vraiment technique?
C'est vrai que Glasgow, c'était plus qu'un critérium. Je pense qu'on pouvait qualifier ça de parcours de cyclocross asphalté. Ça a donné, si on regarde, une course magnifique, il faut dire ce qui est. Ça ne nous a pas souri à nous. On a eu un peu de malchance avec Chris. Je ne pense pas qu'il jouait podium, juste derrière, sans doute, avec Kung, etc. Bref, ça pour dire que ça a fait un super championnat du monde. Les quatre champions à l'avant, un final magnifique. Mais ce n'était pas un parcours de championnat du monde classique. Là, on revient quand même sur quelque chose de plus, normal, j'ai envie de dire, traditionnel. Et le parcours, les chiffres sont ce qu'ils sont. Après, un parcours, il peut être dur. Et selon ce que les coureurs en font, quoi. Et les stratégies d'équipe, ça change complètement la notion de difficulté s'il y a une course d'attente, s'il y a un rouleau compresseur de la part d'une équipe qui neutralise tout, ou s'il y a d'autres équipes qui ne s'avouent pas vaincues et qui ont envie de tenter aussi le tout pour le tout, quoi, plutôt que d'assurer une place et puis de jouer deuxième, troisième, quoi. Donc, ouais, c'est technique, mais c'est sans commune mesure avec Glasgow l'an dernier. Et rappelons qu'il y a quand même 70 bornes en ligne qui ne sont pas faciles.
C'est un tourniquet. un tourniquet l'année dernière.
Oui, mais enfin bon, sans surprise, les meilleurs avaient quand même été devant. Hein. Tout le monde avait critiqué, mais au final.
C'était une course magnifique et le podium voilà. était sublime.
Moi, j'adore ça, les critiques avant les circuits à chaque fois. Oui, c'est pas bien. Oui, enfin, à chaque fois, c'est les meilleurs qui gagnent. Il hein. y a quand même pas trop de hasard. Si on a encore une minute avec Thomas Vauclair, je voulais évoquer avec toi, Thomas, la course féminine qui aura lieu la veille, parce qu'on a Pauline Ferrand-Prévot qui sera présente, championne olympique de VTT cet été sur un parcours d'une trentaine de kilomètres. Là, on va avoir un parcours de 160 kilomètres pour les filles, si je ne dis pas de bêtises, aux alentours de 154 pour être précis. Qu'est-ce que tu penses des possibilités de Pauline Ferrand-Prévot de vraiment jouer la gagne ou le podium pour l'équipe de France à ces championnats du monde?
Eh bien, Pauline, elle a exprimé le désir très vite après les JO de faire les Jeux Olympiques. Alors déjà, c'est vrai que c'est moi qui suis en ligne là, donc je vais répondre à votre question, mais je pense que c'est Paul Brousse, le sélectionneur femme, qui serait le plus légitime, puisque c'est lui qui est en charge de la sélection. Maintenant, c'est vrai qu'on est une seule et même équipe de France, hein, on échange beaucoup. Pauline, c'est un renfort. Vous avez pu remarquer encore au championnat d'Europe avec la quatrième place de Clara Compagnie que l'équipe de France, si on prend l'exemple des JO, même si ça n'a pas été extraordinaire d'un point de vue de résultat, il y avait trois filles au départ. À Tokyo, on en avait qu'une. Elle monte dans la hiérarchie mondiale, l'équipe de France. Et Pauline, ça peut être qu'un renfort, c'est clair. C'est bien sûr que c'est. Alors après, quelle va être sa place par rapport au peloton international? Je pense que d'un point de vue physique, ce qu'elle a démontré ces dernières années, le VTT, ce n'est pas la deuxième, troisième catégorie, quoi. C'est du très, très, très haut niveau. Donc, je ne vais pas répondre directement à votre question. J'ai mon idée là-dessus. Il y aura une incertitude. Et puis, j'ajoute à ça, puisque on enregistre ce podcast, que les conditions météo, à l'heure où on parle, et on sait que ça peut jouer un rôle énorme sur les courses cyclistes, au moment où on parle, eh bien, samedi, ils annoncent quand même des conditions très compliquées, de la pluie, du froid. Ça peut encore se décaler à dimanche, ça peut tomber sur les mecs, on ne sait pas. Donc pour l'instant, c'est comme ça. Et c'est vrai que si vous avez de la grosse pluie, 4-5 degrés, que ce soit chez les filles ou les garçons, des fois, vous pouvez envoyer balader un paquet de ce que vous avez prévu de faire parce que ça devient vite de la survie.
Bon, ben on verra ça samedi.
N'est-ce pas, Jérôme ?
Et dimanche, il aimait pas la grosse pluie.
Non, je déteste ça.
Un dernier mot avec un petit Français qui va pas tarder à taper à la porte de l'équipe nationale chez les grands, Thomas, qui s'est imposé aujourd'hui dans l'épreuve junior du contre-la-montre. C'est la nouvelle petite merveille attendue du cyclisme français. Le Sexas.
On a un champion du monde du chrono.
Bah ouais, champion du monde chez les gamins, chez les jeunes, chez les juniors.
C'est un parcours qui l'avantageait pas du tout.
Ah, en plus, celui-là, alors on nous l'annonce depuis quelques mois maintenant. Est-ce que toi, tu fondes de gros espoirs sur ce garçon-là?
On va plus que sur Paul en lui-même, hein, sur l'ensemble. Il y a un autre Paul d'ailleurs qui écoutera peut-être, hein, Paul Magnier, qui est tombé autour de Grande-Bretagne après trois victoires d'étape. Je crois qu'on a des beaux potentiels qui arrivent là. Alors, je ne vais pas vous sortir le truc, laissons-lui le temps, etc. Parce que ça, c'est un truc de vieux. Je ne vais pas vous dire, oh là là, en France, on a tendance à s'enflammer. Et puis après, les mecs, on les protège trop, etc. Franchement, on a des structures qui tournent bien. C'est top de voir champion du monde du chrono en junior. C'est génial et je lui souhaite tout le meilleur et d'être un des piliers de l'équipe de France à venir, bien entendu. Mais il y a une bonne génération qui arrive, que ça soit d'ailleurs sur le contre-la-montre ou chez les grimpeurs. Et voilà, donc chaque chose en son temps. Qui savoure déjà Paul, son titre de champion du monde du contre-la-montre junior, c'est pas rien. Quand on voit le niveau, la vitesse, hein, pour info, c'était plateau de 60 qu'ils emmenaient les juniors. Hein, donc ça commence à
53 de moyenne.
Ça va déjà vite, hein, 53 de moyenne en effet.
Eh ben c'est parfait. Ce soir un peu de champagne quand même à l'hôtel de l'équipe de France, mais pas trop.
Attention, il est pas encore majeur. Hein.
Il sera demain, c'est demain son anniversaire, c'est ça, je crois.
C'est ça.
Merci. Demain, ouais. Merci Thomas. Merci.
Il y en a une qui avait son anniversaire hier, c'est Audrey Cordon Rago qui va faire sa dernière.
Tu vois,
l'équipe de France lors du relais mixte là.
Merci Thomas. Merci d'avoir été avec nous. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi, de parler de vélo, et on va croiser les doigts évidemment, et plus que croiser les doigts parce qu'on croit pas à la chance, on croit sur surtout au talent de tes coureurs et au talent de leurs sélectionneurs. Merci Thomas Vauclair.
Merci à vous.
À très bientôt dans Grand Plateau. Et on va vibrer pour cette course, Jérôme. C'est vrai que les championnats du monde, moi, c'est une des courses les plus excitantes de l'année.
Ah oui, c'est génial.
Avec ce maillot arc-en-ciel qu'on remet à la fin, franchement, ça file des frissons. On le vivra évidemment sur RMC avec Arnaud et Jérôme. Vous attendez un grand cru cette année, Jérôme ?
Oui, c'est sûr que ça sera un grand cru. Thomas nous a parlé du parcours, voilà, qui est difficile. Et les championnats du monde, Arnaud l'a un peu dit tout à l'heure, c'est toujours des grands crus. Il y a toujours des belles courses, il se passe toujours quelque chose. Et puis, moi, je dis toujours la même chose. Pour moi, il y a deux courses dans l'année où vous avez 100% du peloton qui arrive à 100% de leur forme et motivé. C'est le Tour de France et les championnats du monde. C'est tout. Parce que le Tour de France, tout le monde veut y participer. Les championnats du monde, quand vous êtes appelé en sélection pour représenter votre pays, vous n'avez pas envie de décevoir. Quand vous recevez votre pactage, moi j'en ai fait, je ne sais pas, 8 ou 10 des championnats du monde. Quand tu es junior comme Paul Sexas, tu découvres l'équipe de France, tu ouvres ton pactage, tu es tout content. Mais 10 ans plus tard, quand tu fais encore des championnats du monde, tu as toujours le même sourire quand tu ouvres ton pactage, tu mets ton petit t-shirt pour aller manger, ta combinaison, etc. Voilà, ça fait rêver. Et là où je ne suis pas d'accord avec Thomas quand il dit... qu'en gros, c'est vraiment, alors bien sûr, je le respecte pour ça, quand il dit, c'est vraiment les coureurs qui font, moi finalement, je ne fais pas grand-chose, je ne suis pas d'accord. J'ai eu des sélectionneurs qui n'arrivaient pas à créer une homogénéité dans le groupe. Et là, quand je vois les déclarations de David Godu, on a vite fait effleurer David Godu qui a gagné au Tour du Luxembourg, mais quand il dit, j'ai hâte de voir les briefings de Thomas Vauclair, ben voilà, c'est aussi ça, c'est aussi d'aller représenter son pays et de se mettre à la planche pour les copains, pour Thomas Vauclair et pour l'équipe de France. Et ça, je crois qu'il a réussi à instaurer ça, Thomas Vauclair. Et c'est pour ça que les championnats du monde, ils sont toujours beaux, parce que les coureurs veulent toujours donner 100% de leur potentiel.
Quand tu vois le podium, l'an passé, Van Der Poel, Van Aert, Pogacar, l'année d'avant Evenepoel, Laporte, Matthews, l'année d'avant Alaphilippe, Van Barle, Valgren, l'année encore d'avant Julien Alaphilippe, Wout van Aert, Mark Kirchi, je vais terminer par celui de 2018, Valverde, Bardet, Michael Woods. Bon ben voilà, t'as compris en fait, hein, t'as compris que t'as quand même que des cadors qui gagnent et qui jouent les premiers rôles en général sur ces championnats du monde, et c'est sûr que ça va encore être le cas, parce que dans tous les noms qu'on a cités là, que ce soit Pogacar, Evenepoel, Mathieu Van Der Poel ou même les Français qu'on a cités, bon, on est à peu près sûr d'en retrouver un ou deux sur le podium.
On va quand même citer un Suisse quand même, Mark Hirschi, hein, qui sera chez lui et qui tourne comme un avion depuis quelques semaines.
Ouais, futur équipier de Julien Alaphilippe au sein de l'équipe Tudor. Merci beaucoup.
Et on marque des points UCI d'ailleurs au championnat du monde, je sais plus, pour les équipes. Non, on marque pas le point UCI pour les équipes, Jérôme.
Sais pas, tu me poses une colle.
Bon, voilà.
Bon, vous avez
non, parce que je suis avec une grande attention.
Si, on marque des points, on marque des points.
Alors, je suis avec une grande attention le classement UCI de Tudor Cycling, parce que il va quand même falloir aller au prochain Tour de France. Pour l'instant, ils sont 22e du classement UCI et ils sont pas dans les équipes automatiquement invitées, puisqu'il y a deux pro tours qui sont.
Il y a même
trois pro tours.
Le
vouloir
du patron du tour, c'est ça ?
Voilà, exactement. Donc,
si t'as Julien Alaphilippe qui est en forme.
Mais ça va se décider vite, l'histoire.
Oui, t'as raison. Merci Jérôme, merci Arnaud.
Merci,
on se
messieurs.
Retrouve la semaine prochaine. On analysera tout ça, évidemment, car on aura un beau maillot arc-en-ciel et un beau champion dedans. À la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Grand Plateau. Bonne semaine. Ciao.